du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le deuxième dimanche de l'Avent. Commencement de l'Évangile de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe.
Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.
Alors Jean le Baptiste, dans le désert, proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et sortent vers lui toute la région de Judée et tous les gens de Jérusalem. Ils sont baptisés par lui dans le fleuve Jourdain en confessant leurs péchés. Jean est vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de peau autour des reins. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il proclame :
un plus fort que moi vient derrière moi. Je ne mérite pas de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je baptise d'eau, mais lui vous baptisera d'esprit de sainteté. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Évangile, voilà un thème que nous employons si souvent. Que signifie-t-il exactement? Pourquoi et par qui a-t-il été choisi? Quelle distinction faire entre le baptême d'eau et d'esprit?
Voilà quelques-unes des questions que ce texte nous pose, mais d'abord, situons-le. Il se trouve au tout début de l'écrit de Marc. Le premier verset, d'ailleurs, donne deux titres à Jésus, Messie et Fils de Dieu, deux titres qui vont comme déterminer un peu la composition de ce récit évangélique. En effet, une première partie du récit va se terminer par la profession de foi de Pierre. Pierre qui va répondre à la question de Jésus, « Et vous, que dites-vous que je suis pas ? Tu es le Messie. » Et puis, bien, le récit trouvera son apogée, d'une certaine manière, dans la déclaration du centurion romain au pied de la croix. Voyant comment Jésus avait expiré, ce centurion s'écrie « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Avant que la mission de Jésus commence, Marc présente son personnage par trois petits récits. Le premier, qui est le rôle de Jean le Baptiste, qui est le texte d'aujourd'hui, puis le baptême de Jésus, et enfin la retraite de Jésus au désert. Notre texte d'aujourd'hui va donc concerner le rôle de Jean le Baptiste, par rapport à Jésus. Les spécialistes pensent généralement que ce récit de Marc a été écrit à Rome après la persécution de Néron. Et ce sont donc des païens, des gens qui ne sont pas d'origine juive, qui sont les destinataires de cet évangile.
Commencement de l'évangile de Jésus.
Eh bien, ce mot évangile est un mot grec, evangelium, qui n'a pas été traduit, qui a été simplement francisé. Il est formé de deux mots, Ève, qui signifie ce qui est bon, ce qui est bien, et angile, c'est d'ailleurs le même mot que ange, qui veut dire une annonce, un message. Le mot ange, si on le traduisait, veut dire messager. L'évangile n'est donc pas d'abord un livre, c'est un message de bonheur, une heureuse nouvelle. À Rome, on appelait évangile la proclamation de l'avènement d'un empereur, ou bien la proclamation des hauts faits de son règne. Donc pour les Romains, le mot évangile va évoquer l'annonce de la venue d'un roi et ses faits et gestes. En Israël, on va trouver le mot évangile dans le livre d'Isaïe. Et là, il décrit le messager qui annonce la libération du peuple. Le peuple qui a été exilé en 586 à Babylone et qui, avec l'édit de Cyrus, va rentrer en Israël en 538.
Monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère. Comme ils sont les bienvenus au sommet des montagnes, les pas du messager de bonheur, et qui nous met à l'écoute de la paix, qui porte un message de bonheur. L'Esprit a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la libération.
Mais surtout ce qui a été appelé évangile, peut-être par Jésus, en tout cas par ses disciples, c'est ce que les Juifs nommaient en hébreu la Bessora, c'est-à-dire un message donné de vive voix qui commente et qui interprète la Torah, c'est-à-dire un commentaire. Comme les rabbins de son temps, Jésus prêcha façon de comprendre la Torah, la règle de Dieu. Cet enseignement était toujours donné, bien sûr, oralement à l'époque, et les disciples devaient le retenir par cœur. L'enseignement, après la mort de Jésus, s'est retransmis de bouche à oreille pendant des années à l'intérieur des communautés. Et c'est au bout de quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, lorsque les témoins directs ont commencé à disparaître, qu'on va éprouver le besoin de le mettre par écrit. Marc va donc transcrire à la fois l'enseignement de Jésus et les actions, les gestes de Jésus qui ont accompagné cet enseignement. Alors, cette mise par écrit se fera probablement entre les années 65 pour ce récit de Marc et les années 100 pour peut-être l'évangile de Jean. Plusieurs versions de l'évangile ont vu le jour dans les diverses communautés des disciples, ces communautés qui s'étaient fondées tout autour de la mer Méditerranée. Et c'est seulement à partir du IIe siècle que l'on va choisir les récits qui seront jugés les plus fidèles, comme on dit, les plus canoniques. Mais n'oublions pas que s'il y a plusieurs écrits, il n'y a qu'un évangile. Chaque écrit sera nommé l'évangile selon Marc, selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, et non pas l'évangile de Marc ou de Matthieu.
Jésus, Messie.
Alors pourquoi ces deux titres, Messie et Fils de Dieu? Eh bien peut-être pour répondre aux sensibilités des deux catégories de lecteurs de Marc, à la fois les chrétiens d'origine juive et les nouveaux venus, ceux qui sont d'origine grecque ou romaine. En effet, le titre de Messie fait d'abord référence au monde juif. Messie sera traduit en grec par Christos, un mot que l'on n'a pas non plus traduit, que l'on a francisé en Christ. Mais si l'on voulait traduire le mot Messie, eh bien on dirait l'homme qui est oint, l'homme consacré par Dieu qui a reçu l'onction divine. Et il reçoit cette onction divine afin d'être le roi qui va conduire le peuple de Dieu dans la voie de la Torah, la voie de la règle qui a été donnée par Dieu à Moïse. À l'époque de Jésus, eh bien il n'y a plus de roi Messie, de roi consacré, car le roi Hérode a reçu sa couronne de l'empereur romain, un empereur qui est un païen. Dans cette période de l'histoire d'Israël, qui est celle de Jésus, il y aura donc plusieurs leaders qui se lèveront et qui se proclameront Messie. Nous, les chrétiens, nous sommes tellement habitués à ce qu'il n'y ait que Jésus, le Christ, que nous avons un peu de peine à penser qu'il y a eu plusieurs Messies, mais les premiers rois d'Israël étaient tous des rois Messies. Jésus, d'ailleurs, lui, semble avoir longtemps hésité à accepter ce titre. En effet, la majorité de ses contemporains voyaient le Messie comme quelqu'un qui jouerait un rôle politique en libérant Israël du joug de l'occupant romain. Eh bien, Jésus se refusait à jouer ce rôle, comme d'ailleurs le montre bien sa réaction à la suite du repas des pains multipliés, une réaction que nous trouvons dans le 6e chapitre de Jean.
Jésus savait qu'il était sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors il se retira, tout seul, dans la montagne.
Le deuxième titre, Fils de Dieu. Eh bien, il n'a pas à l'époque le sens que les conciles chrétiens lui donneront plus tard et qui désigne alors la deuxième personne de Dieu Trinité, Dieu le Fils. Chez les Juifs, Fils de Dieu est un des titres du Messie. Le roi Messie, parce qu'il a la responsabilité de diriger le peuple et de faire respecter la Torah, est considéré comme le fils du seul vrai roi qui est Dieu, qui est le père de son peuple, parce que justement il lui donne la sagesse de la Torah. Il est donc considéré comme le fils adoptif de Dieu. D'ailleurs, lors de la consécration royale, on chantait le psaume 2 qui disait entre autres
« Dieu m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ».
Par contre, chez les Romains, bien les empereurs se donnaient aussi le titre de fils de Dieu. Ainsi, dès le commencement de l'évangile, par ces deux titres, Messie et fils de Dieu, Marc désigne les destinataires de l'évangile de Jésus. Ce sont aussi bien les Juifs, qui sont représentés par Pierre, le Messie, que les païens qui vont être représentés par le centurion qui déclare « Fils de Dieu ».
Le rôle de Jean le Baptiste.
Eh bien, Jean est à la tête d'un de ces mouvements de réveil spirituel qui ont été nombreux à cette époque. Pour comprendre Jean et son baptême, il est peut-être utile de connaître un de ces mouvements qu'on appelle les Esséniens.
Qui sont les Esséniens ?
Eh bien, l'historien juif Flavius Joseph en parle dans ses livres.
Il existe chez les Juifs trois écoles de philosophie. Ceux qui s'attachent à la première sont appelés pharisiens. À la seconde, sadducéens. À la troisième, qui a la réputation d'exiger une vie particulièrement pieuse, essénien.
Un autre philosophe grec d'origine juive, qui s'appelle Philon d'Alexandrie, décrira d'ailleurs l'idéal de vie des Esséniens.
Ils se forment à la piété, à la sainteté, à la justice, à la politique, en prenant pour triple règle et critère l'amour de Dieu, l'amour de la vertu et l'amour des humains. De l'amour de Dieu, ils produisent d'innombrables exemples. Pureté constante, incessante, rejet du mensonge. L'amour de la vertu, il l'illustre par le mépris des richesses, de la gloire, par la maîtrise de soi, et encore par la frugalité, la simplicité, le respect de la Torah. L'amour des humains par la bienveillance, l'égalité, la vie communautaire.
La découverte du site de Qumran vers le milieu de notre siècle, du XXe siècle, a fait mieux connaître ce groupe religieux. Ces juifs très pieux avaient établi une sorte de monastère dans le désert proche de la mer Morte. Leur règle, appelée le manuel de discipline, décrit leur style de vie, pauvreté rigoureuse, obéissance, silence propice à la prière, lecture méditée de la Bible. Ils contestent aussi l'autorité des prêtres du temple de Jérusalem parce qu'ils les trouvent trop liés au pouvoir ennemi aux Romains. Ils attendent avec beaucoup de ferveur la venue du Messie ou des Messies. Pour cela, il leur faut suivre avec fidélité la Torah, la règle de Dieu. Ils pratiquent d'ailleurs de nombreux bains de purification pour signifier leur recherche d'une vie qui est menée selon l'Esprit de Dieu. Évoquons d'ailleurs deux textes de leur règle qui décrivent comment on devient membre de la communauté.
C'est par l'Esprit de sainteté en vue d'une vie commune dans la vérité de Dieu et qui sera purifié de toutes ses fautes. Et c'est par l'esprit de droiture et d'humilité que sera expié son péché, quand on l'aspergera avec l'eau lustrale et qu'il se sanctifiera dans l'eau de contrition. Et il affermira ses pas pour marcher en parfait dans toutes les voies de Dieu. Au temps de sa visite, Dieu le purifiera par l'esprit de sainteté et il aspergera sur lui l'esprit de vérité comme de l'eau lustrale.
Bain d'eau, bain d'esprit sont ici joints, unis pour purifier le cœur de ceux qui s'appellent eux-mêmes les fils de la lumière.
Pourquoi ces gens sont-ils allés au désert ?
À la suite des prophètes, certains courants religieux considéraient le désert comme le lieu de purification, où le Messie devrait conduire son peuple. Le désert, en effet, rappelait le temps de l'Exode, où sous la direction de Moïse, on avait célébré la première alliance entre Dieu et les tribus juives. Il était ainsi devenu le lieu significatif d'une conversion, d'un renouvellement de l'alliance, d'une nouvelle fidélité. Le prophète Osée comparait les relations entre le peuple d'Israël et Dieu à celles d'un homme et de son épouse qui a été infidèle.
Elle allait à la suite de ses amants et moi, elle m'oubliait. C'est pourquoi je vais la séduire. Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et la miséricorde et tu me connaîtras.
Ainsi les Esséniens s'étaient-ils réfugiés au désert pour attendre le Messie et pour préparer les chemins de sa venue par une vie de conversion.
Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur Dieu.
Alors au temps où de nombreux juifs se trouvaient exilés à Babylone, 500 ans avant Jésus, ce texte d'Isaïe avait annoncé la fin de l'exil et le retour de tous les exilés à Jérusalem à travers le désert sous la conduite de Dieu. Mais les rabbins à l'époque de Jésus interprétaient ce texte dans le sens de la venue future du Messie. Et la traduction grecque de la Bible, appelée la Septante, avait d'ailleurs légèrement modifié le texte, en liant l'expression « dans le désert » non plus à « préparer les chemins de Dieu dans le désert », mais à la voix qui crie dans le désert. Au lieu donc de dire « dans le désert, préparer le chemin de Dieu », on y lisait « une voix crie dans le désert ». Cette voix, eh bien, c'est celle d'un nouveau prophète qui va préparer la venue de Dieu dans la personne du Messie pour une nouvelle libération. Au texte d'Isaïe, le récit joint aussi une autre citation biblique, celle du prophète Malachie.
« Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. »
Ce texte du 5e siècle évoquait la venue du grand jour du Seigneur Dieu. Dieu se ferait précédé d'un messager pour préparer son chemin. Et la tradition juive voyait en Élie le prophète qui reviendrait sur terre afin de préparer ce grand jour du jugement. Ce grand jour qui pourrait s'accomplir par la venue d'un Messie.
« Voici que je vais vous envoyer Élie, avant que n'arrive le grand jour du Seigneur Dieu. »
Jésus dira plus tard que Jean le Baptiste a été la figure d'Élie.
« Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. »
Ainsi, par ces citations de la Bible, le récit évangélique situe Jésus comme étant le messager de Dieu qui vient en son nom pour apporter la libération en réalisant le grand jour du jugement. Et Jean sera le précurseur, celui qui prépare les cœurs à recevoir le Messie.
Pourquoi Jean baptise-t-il ? Jean le Baptiste a-t-il été un essénier ?
Eh bien, on ne sait pas, c'est possible. C'est aussi d'ailleurs dans le désert que Jean prêche et qu'il propose un bain de purification. Mais son allure est celle d'un prophète, comme le décrivent les textes du prophète Élie au deuxième livre des Rois.
C'était un homme qui portait un vêtement de poil et un pagne de peau autour des reins.
La nourriture de Jean est celle des nomades du désert et c'est aussi celle qui est décrite dans certains documents de Qumran, comme le document de Damas, qui indique comment il faut accommoder les sauterelles. Eh bien, dans la pensée biblique, ce qu'on mange met en communion avec celui qui donne la nourriture. Or, Jean, qui se nourrit de sauterelles et de miel sauvage, ne reçoit donc aucune nourriture des êtres humains. Il l'attire directement de la création, c'est-à-dire de la main de Dieu. Et cela met donc Jean en communion avec Dieu et fait de lui un porte-parole de Dieu. Mais ce Jean-Baptiste est très différent des Esséniens. Il ne semble pas prôner, comme les Esséniens, la fuite du monde. S'il se trouve au désert, il est cependant posté au point d'eau, là où s'arrêtent les caravanes, que ce soit les caravanes des pèlerins ou des commerçants, des soldats. Jean ne contraindra personne à quitter son monde, son occupation, pour se réfugier au désert. Il invitera plutôt à vivre la vie ordinaire en toute droiture, conformément aux préceptes de la Torah. Et c'est ce qu'il demande tout spécialement à ceux qui pratiquent des métiers où la fidélité à la Torah est souvent malmenée, comme par exemple les percepteurs d'impôts qui étaient toujours tentés de dérober eux-mêmes une partie des taxes qu'ils percevaient, ou comme les soldats qui avaient la tentation de rançonner les populations pour arrondir leurs soldes. D'ailleurs, la prédication de Jean ne concerne pas seulement une élite de gens pieux, elle s'adresse à tous. Toute la Judée et les habitants de Jérusalem venaient à lui, dit notre texte. Ce succès est d'ailleurs confirmé par l'historien Joseph. Jean propose une conversion de vie pour préparer la venue du Messie. Or, à l'époque, beaucoup de Juifs attendent avec une grande fébrilité cette venue d'un Messie libérateur, parce que bien le pays est occupé par les Romains depuis une centaine d'années, et que la perte de la liberté humilie profondément les Juifs. De plus, les lourds impôts prélevés par les Romains exaspèrent la population. Il y a, à l'époque, de nombreux pauvres. Mais cette conversion prônée par Jean ne demande pas, comme pour les pharisiens, l'observance de toutes les règles de pureté. Elle ne demande pas non plus de nombreux bains de purification comme le faisaient les Esséniens. Pour Jean, il semble bien qu'un seul baptême suffise pour engager une nouvelle vie qui sera vécue dans la droiture face à la Torah. Et c'est dans ce contexte que va commencer la prédication de Jésus.
En quoi Jean est-il différent de Jésus ?
Eh bien, les récits évangéliques situe le début de la prédication de Jésus en référence à Jean le Baptiste. Et pour expliquer cela, les spécialistes proposent plusieurs raisons. D'abord, Jean aurait désigné explicitement Jésus comme le Messie. Et plusieurs des disciples de Jean seraient devenus disciples de Jésus, comme on le voit dans le récit de l'apôtre Jean. Les disciples de Jean, une autre raison, seraient encore nombreux au temps où l'évangile est mis par écrit, et ses disciples voudraient accréditer leur maître comme étant le vrai Messie. Alors le récit évangélique chercherait à montrer que Jean le Baptiste lui-même a reconnu Jésus comme Messie, et qu'il y a donc une grande différence entre le baptême de Jean et la mission de Jésus.
Alors, Jean le Baptiste, dans le désert, proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Comme tout prophète, Jean est celui qui appelle à la conversion et à l'aveu des fautes. Il invite à poser un geste de repentir, un geste de demande de purification par un baptême. Le mot baptême, eh bien, il vient d'un verbe qui signifie se plonger. Se baptiser ou être baptisé, c'est se plonger tout entier dans les eaux d'un fleuve ou d'une piscine. Ce plongeon dans l'eau qui purifie veut signifier le désir d'être purifié de ses fautes par Dieu. Chez les Esséniens, les bains de purification nécessitaient une volonté de se convertir en observant plus fidèlement la Torah. Écoutons la règle de Qumran qui précise qu'il faut que les gens doivent confesser leurs péchés.
Les prêtres énuméreront les justices de Dieu et ils proclameront toutes ses bontés miséricordieuses. Et les Lévites énumèreront les fautes d'Israël et tous leurs péchés, et tous ceux qui passent dans l'Alliance confesseront leurs fautes.
Les Esséniens soumettaient même les convertis du péché à un an, une année de probation, avant de leur permettre de se plonger dans la piscine des initiés. Jean, lui, baptise sans exclure personne et sans demander de temps de probation. Son rite du baptême est vu surtout comme une ultime préparation au grand jour de la purification qu'il voit se réaliser par le Messie qui va bientôt se manifester. Il y a d'ailleurs une idée courante à l'époque que c'est le péché du peuple qui retarde la venue du Messie. Dès que le peuple se sera converti, alors le Messie pourra venir. Jean déclare d'ailleurs que quelqu'un vient derrière lui qui est plus grand et plus puissant que lui.
Qu'a donc de si prestigieux ce Jésus pour que même le grand prophète qu'est Jean ne se considère pas assez grand pour l'honorer?
Eh bien, Jean lui-même va s'en expliquer. « Moi, je baptise dans l'eau, dit-il, mais lui va vous baptiser dans l'esprit de sainteté. » Jean purifie par l'eau. Jésus, le Messie, purifiera par le souffle spirituel du Dieu trois fois saint. Comme l'était le baptême des Esséniens, la démarche de Jean est donc une démarche de l'être humain qui s'efforce de revenir à Dieu et de lui demander son pardon. Alors que la démarche du plus fort parce qu'il est fort de la puissance de Dieu, sera une démarche divine. Ce sera la démarche de Dieu lui-même qui vient purifier ses fils et ses filles. C'est d'ailleurs ce qu'avaient annoncé certains prophètes. Écoutons Ézéchiel.
Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purs. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et c'est un esprit nouveau que je mettrai au-dedans de vous. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon mes préceptes et que vous observiez mes directives.
Donc aussi grand soit Jean le Baptiste, son baptême reste une initiative humaine. Une initiative qui part de l'être humain qui veut changer sa vie et tenter de s'approcher de Dieu. Alors que Jésus, lui, vient comme l'envoyé du Père divin. Il vient nous baigner de son esprit qui est l'esprit du Père, l'esprit divin d'amour. Oui, en cet humain de notre race qu'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui vient vers nous. Ce n'est plus l'humain qui s'approche de Dieu, c'est Dieu qui s'approche de l'être humain. Le Père et moi, nous sommes un, et qui me voit, voit le Père, dira ce Jésus, Messie, Fils de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qui l'habite et qui l'inspire que Jésus peut dire des paroles qui sont celles de Dieu.
C'est l'Esprit Saint qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
L'Esprit ne vient en nous qu'accompagnant la parole de Jésus qu'il nous faut sans cesse écouter et prier. C'est ce que Pierre reconnaîtra en disant
« À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de vie éternelle. »
Parce que cet humain est le Fils unique du Père qui est Dieu. Nous pouvons nous aussi devenir fils et filles de Dieu par lui. Et cela en vivant sa parole dans une intense communion d'esprit avec lui, lui qui veut devenir notre ami. Et cela, eh bien, dans le cœur à cœur de la prière, comme dans le quotidien le plus habituel de nos journées. Jésus ressuscité peut, veut vivre avec nous toute notre vie, heure par heure. En effet, Jésus a fait ce que nous faisons, il a senti ce que nous sentons, il a souffert la fatigue du jour, on le voit dormir dans la barque, il a connu la peine devant la méfiance ou la méchanceté de l'autre, il a été meurtri par les jalousies, les trahisons, celles de Pierre, de Judas, il a pleuré le deuil, la séparation des êtres chers, comme Lazare, il a sué le sang de l'angoisse à l'agonie, il a connu aussi la joie de se sentir aimé par Marie-Madeleine, par l'apôtre Jean. Il a vécu le bonheur de donner et de recevoir, de partager. Il a senti le besoin et le devoir de faire silence et de prier. On le voit se lever de nuit pour prier. Oui, si nous sommes attentifs, présents, nous pouvons retrouver Jésus partout. À la maison comme au travail, dans le métro, dans la rue, dans les centres d'achat comme à l'église. Oh certes, nous savons cela, mais nous ne le réalisons pas. Madeleine Delbrel disait... On dit que tu es présent partout, alors pourquoi je suis si souvent ailleurs? Oui, nous ne savons pas reconnaître Jésus qui nous est présent aussi bien dans la douleur que dans la consolation. Nous ne savons pas l'entendre pleurer avec celui qui pleure, le voir sourire avec celle qui rit. Nous ne savons pas le voir prêt à tenter avec nous une démarche de réconciliation ou disponible pour inspirer notre prière. Nous ne savons pas le voir discret pour éclairer une situation difficile, le bras posé sur notre épaule pour nous dire sa tendresse. Nous ne savons pas le voir, il faut pour cela prêter attention et écouter, nous sommes si souvent distraits. Il faut vivre avec Jésus tous les gestes de notre vie. Par exemple, ce livreur qui mange son sandwich tout seul dans son camion, pourquoi ne pas l'inviter à venir avec nous, manger à l'atelier? Cette voisine qui n'a jamais de visite, pourquoi ne pas aller la voir et lui demander un service? Cette personne qui est seule, nouvelle, dans un groupe et qui s'isole, pourquoi ne pas aller vers elle pour entamer une conversation? Si nous sommes réellement baptisés dans l'Esprit de Jésus, il nous faut à chaque circonstance accueillir l'Esprit de Jésus, demander à Jésus de se joindre à nous pour agir avec nous.
Jésus, mon frère et mon Seigneur, Fils unique de Dieu, je te remets mon esprit fatigué et épuisé pour que tu lui redonnes force et vigueur. Je te remets mon esprit frileusement replié sur lui-même et pleurant de tristesse pour que tu l'ouvres à ton amour et que tu l'inondes de ta joie. Je te remets mon esprit angoissé et sans espoir, pour que tu l'éclaires de ta paix et que tu lui insuffles ton espérance. Je te remets mon esprit terrien et asservi aux idoles de ce monde, pour que tu l'attaches à toi, qui seul est vrai, qui seul rend libre. Je te remets mon esprit mortel, pour que tu l'accordes à ton diapason de vie éternelle. Jésus, Fils premier-né du Père et mon frère, je te remets mon esprit, pour que tu le baignes de ton souffle divin pour aujourd'hui et pour l'éternité. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.